Ce soir, sur Campus Grenoble.
90.8.
Nous ferons ce qui est interdit.
Nous irons ensemble à la buvette.
C'est l'apéro.
Phonie.
L'exception radiophonique.
L'apérophonie.
De la culture.
Et de la musique.
Au shaker et à la cuillère.
Campus Grenoble 90.8.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette table ronde organisée par le Relais Égalité et Lutte contre les discriminations de l'Université Grenoble-Alpes. Vous êtes bien sur Radio Campus Grenoble 90.8 FM, mais également sur, vous pouvez nous écouter sur www.campusgrenoble.org. Alors, on se retrouve pour une table ronde aujourd'hui qui est un petit peu spéciale, puisqu'on n'est pas réellement toutes et tous ensemble autour d'une même table, mais bien chacun chacune devant notre table et derrière notre micro pour respecter les mesures sanitaires. Alors aujourd'hui, la table ronde que nous allons animer sera au sujet des violences conjugales chez les jeunes de 18 à 25 ans. Et pour discuter de ce sujet, je suis avec 5 personnes, donc avec Ilona Leroy. Bonjour Ilona.
Bonjour.
Avec Madison Fernandez. Bonjour Madison.
Bonjour.
Agathe Breton. Bonjour Agathe.
Bonjour.
Agnès Lambertin. Bonjour Agnès.
Bonjour.
Et Fabrice Delabois. Bonjour Fabrice.
Bonjour.
Et donc avant de rentrer dans le vif du sujet, finalement j'ai dit vos noms, mais vous ne vous êtes pas présentés. Je vais vous proposer de faire un petit tour de table, vous présenter chacun chacune votre tour et dire qui vous êtes tout simplement à nos auditeurs et auditrices. Alors on commence peut-être par vous, Madison et Ilona.
Oui, alors bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Madison, je suis étudiante à l'IAE de Valence, donc qui appartient à Grenoble. Et cette année, dans le cadre de mes études, enfin en extra de mes études, j'ai décidé de faire partie du relais égalité et lutte contre les discriminations de l'Université Grenoble-Alpes. Donc le relais égalité, c'est quoi? C'est une équipe qui est composée de l'administration, mais aussi des étudiants de l'UGA. Et notre rôle, en fait, c'est de sensibiliser les autres étudiants de l'université à différentes questions fondamentales comme les discriminations, le sexisme, l'homophobie et encore bien d'autres. Et du coup, pour ça, on organise plein d'événements. Par exemple, au mois de mars, on a organisé le mois de l'égalité avec tout un programme d'événements et d'ateliers autour de différents thèmes. Et on en fait aussi tout au long de l'année. On fait des discussions, on fait des ateliers un peu plus interactifs, un peu plus formateurs, vraiment très variés. Et puis, donc, je fais ça avec ma collègue Ilona, qui est présente à cette table ronde, à qui je vais passer la parole pour se présenter.
Oui, donc, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Ilona et je suis étudiante aussi, du coup, en Master Management et Gestion des entreprises à Sciences Po Grenoble. Et je travaille aux côtés de Madison en tant qu'étudiante relais égalité, mais principalement, du coup, sur le campus de Grenoble. Et du coup, je vais laisser peut-être Agathe à se présenter.
Oui, bonjour. Alors moi, je m'appelle Agathe Breton, je suis assistante sociale de formation et je suis aussi autrice du livre « C'est pas ça l'amour » qui traite la question justement des violences dans les très jeunes couples. Dans ce livre, j'y aborde d'abord mon histoire parce que j'ai moi-même été victime de violences de mes 16 à 19 ans et puis j'ai ensuite créé un cahier pédagogique qui reprend les grands mécanismes des violences. Je les illustre avec ma propre histoire et puis j'ai aussi élaboré des tests, des quiz et des dessins pour essayer d'avoir différents supports d'échange avec les jeunes et tenter de pouvoir faire de la prévention et des interventions auprès d'eux et de les sensibiliser sur cette question.
Fabrice, si vous voulez vous présenter aussi à la suite.
Oui, donc je suis Fabrice Delabroix et je dirige le service départemental d'aide aux victimes de la Drôme, l'association Remède France Victimes 26. Et il faut savoir qu'il y a des associations comme la nôtre qui portent d'autres noms parfois, mais dans chaque département et auprès de chaque tribunal judiciaire, puisque ce sont des associations qui sont agréées par le ministère de la Justice. Et puis, ce que je peux vous dire aussi, c'est que ce sont des services qui sont confidentiels, gratuits également pour tout le monde, pour toutes les victimes d'infractions, et qui sont composés d'équipes professionnelles, des juristes principalement, ou des psychologues comme Agnès Lambertin.
Et du coup, ça en suit la présentation d'Agnès, si vous voulez vous présenter.
Donc, je suis effectivement Agnès Lambertin, psychologue à l'association Remède, psychologue clinicienne, et que dans le cadre de mes fonctions et de mes missions, j'accueille effectivement un certain nombre de personnes qui ont été victimes de violences conjugales, massivement des femmes, qui ont été victimes de violences conjugales, quelques hommes, une minorité qui peuvent, une toute petite minorité qui peut aussi être victime, mais que ça existe aussi. Voilà, donc on prend en charge suivant les problématiques, suivant un certain nombre de critères, en individuel ou en groupe. Voilà, en fonction de ce que veulent les personnes, ce qu'on aura l'occasion de développer tout à l'heure.
D'accord, bah merci beaucoup à tous et à toutes pour votre présentation. Je vais commencer déjà par un peu introduire le sujet, puisque c'est vrai que la table ronde, on a décidé de la centrer avec Madison sur les jeunes de 18 à 25 ans, parce que c'est vrai qu'on entend souvent parler des violences conjugales actuellement, d'autant plus avec le contexte sanitaire. Donc les violences conjugales que nous, on a entendues avec Madison comme des violences concernant des couples mariés, mais c'est vrai qu'on entend très peu ce terme de violence conjugale, on va dire, dès que ça concerne les jeunes de 18 à 25 ans. Pourquoi de 18 à 25 ans? C'était aussi dans la volonté de vouloir inclure tous les jeunes et non pas que les étudiants. Donc de plus, en tant qu'étudiante relais égalité, on aimerait vraiment donner à toutes et à tous les clés en main pour que les victimes puissent... les victimes et les témoins, comme on pourra le voir un peu plus tard, puissent avoir les clés pour intervenir lors de violences, justement.
Et du coup, pour centrer davantage le sujet, on a décidé de vous donner quelques chiffres. D'après les chiffres clés du ministère à l'égalité femmes-hommes, les appels au 3919 concernant les violences conjugales ont triplé entre mars et juin 2020. Donc, c'est une croissance phénoménale. En 2007, d'après le ministère de la Communauté française de Belgique, 50% des jeunes ont déclaré avoir vécu des situations de violence par son partenaire, comme par exemple exiger de savoir où est l'autre constamment, cesser de parler ou de discuter avec d'autres personnes du sexe opposé, et tout cela dans des constantes dévalorisations de l'autre. Vous remarquez bien que ces chiffres datent un peu, vu que je vous ai dit que c'était de 2007 et qu'ils sont issus de Belgique, notamment car nous n'en trouvons presque pas en France, car c'est un sujet qui est encore bien trop peu évoqué dans notre pays.
Donc, il est vrai qu'on a décidé de parler de violences de couple, voilà l'intitulé de la table ronde des violences de couple chez les jeunes. Pour avoir, on va dire, un champ plus large, mais c'est vrai que d'autres personnes parlent de violences conjugales. On a pu le voir notamment au travers de nos recherches pour la préparation de la table ronde, qui renvoie justement à cette conjugalité, au mariage, à l'ordre du privé. Du coup, pour une première question pour nos intervenants et intervenantes, vous, comment vous qualifiez dans votre quotidien ces violences chez les jeunes? Et pourquoi ces termes-là?
Ben, moi, je veux bien intervenir. La violence au sein du couple ou la violence conjugale, qu'elle soit chez des jeunes ou chez des moins jeunes, c'est de la violence. Souvent, les relations violentes, de toute façon, s'installent très jeunes et avec des personnes qui rentrent dans un mécanisme de fonctionnement où, effectivement, si la première relation, elles ont connu de la violence, le risque de reproduire la violence et de subir de la violence est important, même dans les couples suivants. Et la violence conjugale qu'on renvoie à la conjugalité, pas forcément au mariage, à la conjugalité dans le sens psychologique du terme, c'est-à-dire quand on est 1+1 et que ça fait un couple dans ce sens-là.
D'accord. Est-ce que Fabrice ou Agathe, vous souhaitez intervenir?
Oui, ben moi je partage complètement. L'avis et le regard d'Agnès. Puis alors, moi, j'utilise aussi parfois, alors plutôt avec des mineurs, parce que je suis amenée à intervenir dans des lycées, notamment dans des classes de seconde. Et j'utilise parfois aussi le terme violence amoureuse, puisque dans le cadre de mon livre, j'ai fait pas mal de recherches au Québec et en Belgique. Et c'est un terme, qui revient assez souvent, violence amoureuse, pour faire peut-être un peu moins peur aux jeunes. En effet, quand même pouvoir citer des violences, parce que ça reste des violences, mais pour contrer aussi cet aspect conjugalité qui... dans l'imaginaire collectif, renvoie forcément en effet au mariage et à la cohabitation. Donc c'est un terme que j'utilise aussi plutôt avec les mineurs de mon côté.
Merci pour ces interventions. C'est vrai que, en ayant préparé cette table ronde, on avait fait quelques recherches au sujet de ce terme. Et lorsqu'on cherchait le mot de violence conjugale sur les différents dictionnaires ou définitions, on trouvait vraiment le mot conjugal associé au mariage ou au pax. Et c'est pour ça qu'on s'est posé la question, et ça peut paraître pas facile de comprendre le sujet pour tout le monde. Donc voilà, merci pour ces définitions. Est-ce que vous pouvez nous parler... on s'est un peu renseigné et on a vu qu'il existait un outil qui permettait de définir la différence entre un conflit et une violence. Donc on a vu que cet outil s'appelait le violentomètre. Est-ce que, par exemple, Agathe, vous pouvez nous en parler et nous dire où est-ce qu'on peut le trouver et comment il s'utilise ?
Oui, le violentomètre, c'est un outil assez simple qui permet de mesurer, entre guillemets, si sa relation comporte ou non des violences. Et donc, c'est un outil qui a été créé par la région Île-de-France, par le Centre Hubertine Auclair, les observatoires des violences faites aux femmes de Paris et aussi de la Seine-Saint-Denis, avec l'association En Avant Toutes. Et l'idée, c'était vraiment de pouvoir sensibiliser les jeunes et de les aider à mieux comprendre aussi comment ces violences, elles pouvaient s'exercer dans des très jeunes couples, avec des exemples du coup qui leur ressemblent et dans lesquels ils peuvent s'identifier. Et le violentomètre, donc c'est comme une petite règle avec différents exemples de situations pour savoir si tout est OK dans sa relation, si elle est saine, si au contraire, il faut commencer à se poser des questions parce qu'il y a des petits signaux alarmants, ou si à l'inverse, on est plutôt en danger dans sa relation et qu'il vaut mieux réagir et demander de l'aide. C'est un outil qui a été distribué vraiment en masse dans les lycées franciliens, et qui est toujours disponible en ligne. Il est téléchargeable notamment sur le site du Centre Hubertine Auclair.
Merci beaucoup. Du coup, aussi, en effectuant nos recherches, on a pu voir qu'il existait différents types de violences. On en connaît quelques-unes parce qu'on en entend parler dans notre quotidien. Donc, on entend souvent les violences psychologiques, les violences physiques, sexuelles et verbales. C'est celles qui ressortent le plus. Mais c'est vrai qu'il y en a qui passent un peu à la trappe, enfin, quand on en parle du moins, parce qu'elles sont quand même présentes. Et on a vu que c'était notamment les violences économiques et administratives. Est-ce que quelqu'un peut nous parler de ces violences-là et essayer peut-être de les illustrer avec des cas concrets qui peuvent parler aux plus jeunes ?
Les violences économiques, c'est quand ça se passe beaucoup dans les couples qui vivent ensemble, notamment la femme ne travaille pas parce que le choix de couple a été fait qu'elle élève les enfants. Et où du coup, elle perd tout accès, par exemple au compte, la question des papiers, où elle n'a plus accès ni aux papiers, etc. Ce qui font partie des violences économiques. Après, dans un couple, il y a rarement, dans les relations en tout cas qui sont violentes, il y a rarement une seule forme de violence. C'est suivant les jours, plus ou moins les unes, plus ou moins les autres, mais c'est un panel de violences et c'est surtout ça qui doit alerter. Quand il y a à la fois des violences physiques, pas forcément, mais d'un peu de violence psychologique, un peu de violence financière, où il est demandé à la femme qui a un salaire de payer entièrement toutes les charges, où ça doit alerter quand même sur l'ensemble de ces points, où ça fait beaucoup au bout d'un moment, ou pris séparément. Ça peut être des toutes petites violences, mais mis bout à bout, ça devient inquiétant sur le fait qu'en plus, la violence au sein du couple augmente en fonction de la durée de vie du couple. Donc, plus vous restez dans une relation violente, plus vous aurez affaire à la violence, et notamment à un moment donné à la violence physique. Mais toutes les violences se retrouvent. Il y a rarement qu'une seule forme de violence dans la question des violences conjugales. Moi, ce que je voulais juste revenir sur un principe, un peu, c'est qu'effectivement, un couple sans conflit, ça n'existe pas. Mais dans un conflit, on est deux et à même niveau à se disputer. Dans la violence, il y en a un qui est sur une marche au-dessus de l'autre et qui tente d'imposer quelque chose par la contrainte, que ce soit de la contrainte psychologique ou physique, et la contrainte et le conflit, ça n'est pas du tout la même chose. On peut se disputer, partir très en colère, chacun garder son point de vue, c'est du conflit. La violence, c'est quand on veut amener l'autre à faire ce que l'on souhaite qu'il soit fait.
Oui, c'est vrai, d'où l'importance aussi du violentomètre, qui est un outil très utile, on va dire, pour se repérer un peu dans ce schéma, dans cette différence entre le conflit de couple, mais aussi de violence entre les deux personnes. Après, on reviendra un peu plus tard sur ce qu'est le schéma aussi d'emprise et de... Voilà, le schéma d'emprise est de savoir à partir de quel moment c'est pas normal et qu'est-ce qui est normal dans un couple. Donc c'est vrai par rapport à ces différentes violences, si on peut dire. Donc vous nous avez bien expliqué qu'il y avait un lien entre toutes. Et c'est vrai que encore une fois, par le biais de nos recherches, c'est vrai qu'on a remarqué que certains chercheurs, chercheuses mettaient en avant certaines caractéristiques pour qualifier ces violences de couple, plus principalement chez les jeunes. Et pour en fait différencier les violences de couple chez les jeunes et les violences de couple chez les personnes un peu plus âgées. Et est-ce que vous, au travers de vos expériences, je ne sais pas, est-ce qu'il y aurait en fait vraiment des caractéristiques que l'on peut attribuer aux violences de couple chez les jeunes ? Nous, c'est vrai qu'on a vu, par exemple, les contextes de fêtes, l'alcool ou encore la jalousie, qui est quand même, on a pu lire que la jalousie était quand même très présente aussi qui était facteur, on va dire, de violence.
Alors effectivement, ce sont des facteurs qu'on retrouve dans toutes les formes de violence. Ce qui se passe chez les couples jeunes, c'est que souvent, c'est des premières rencontres, alors premières ou dans les premières rencontres amoureuses que l'on fait, et que toute rencontre amoureuse commence toujours par une période de fusion amoureuse, c'est-à-dire qui est essentielle, la question de la fusion, quel que soit le couple. Pour qu'on puisse un jour former couple, il faut en passer par cette phase de fusion-là, c'est-à-dire qu'on n'est bien qu'avec l'autre, on l'a entièrement dans sa tête, sur cette personne qui représente tout pour nous, l'homme idéal, la femme parfaite, etc. On a enfin trouvé le bon. Cette période-là de fusion est effectivement souvent, du coup, cette phase-là dans laquelle sont les jeunes, puisque le couple n'est pas encore installé, et qui est plus particulièrement propice à la question de la violence, puisque du coup, quand on est dans cette période de fusion, on a rencontré la personne qui correspond à un idéal, c'est-à-dire qui correspond à ce qu'on a dans notre imaginaire de ce qu'on attend de l'homme ou de la femme de notre vie. Et que du coup, quand la personne réelle qu'on a en face de nous n'est pas tout à fait la même, et ben, quand on est dans des comportements violents, on va avoir tendance à vouloir la faire correspondre à ce qu'on a dans notre tête. Et que cette période-là de la fusion amoureuse, qui concerne beaucoup les jeunes qui peuvent être très amoureux, puis en plus sur des amours qui peuvent passer de l'un à l'autre, qui ne sont pas forcément établis comme ça s'établit plus tardivement, cette période-là est effectivement porteuse de violence, parce que dedans, eh ben, il y a tout ce que vous avez décrit, notamment en termes de jalousie. On n'aime pas que l'autre s'éloigne, on aimerait bien qu'il passe une soirée avec nous plutôt qu'ailleurs. Et quand on n'est pas à l'aise avec sa propre violence, eh ben, ça peut déborder sur des violences de couple.
D'accord, merci beaucoup Agnès pour cette intervention. Est-ce que Agathe ou Fabrice, vous souhaitez rajouter quelque chose ?
Oui, je vous avais parlé effectivement de sa situation là, d'une très jeune femme que j'ai rencontrée et qu'on a accompagnée au service d'aide aux victimes et qui avait été vraiment, enfin qui était passée vraiment à deux doigts de la mort, puisqu'elle avait été transportée inconsciente à l'hôpital de la Tronche à Grenoble. et qu'elle avait eu 17 dents fracturées. Et dans le contexte, on avait effectivement donc un jeune couple, sans doute effectivement, comme le signalait Agnès, très fusionnel, mais avec dans le fond des consommations de psychotropes importantes de la part de son compagnon. Il consommait beaucoup de cannabis, pas mal d'alcool là-dessus, et puis il était assez jaloux. Et puis donc, une nuit, il s'est réveillé, il avait fait un cauchemar et il avait rêvé que sa copine le trompait. Et ce rêve était tellement vrai pour lui qu'il a massacré sa compagne en pleine nuit, voilà, sur la simple base de ce cauchemar. Donc on a là des facteurs quand même de risque, hein, alcool, psychotrope, jalousie. Quand vous mélangez tout ça, ça peut conduire quand même... voilà. Il peut y avoir quand même des clignotants là qui s'allument et qui disent attention.
D'accord. Et du coup, est-ce que ces caractéristiques-là peuvent être catégorisées comme des facteurs aggravants, notamment dans une approche un peu plus juridique ?
Alors, sur le plan pénal, tout à fait. Hein, on est là sur... on a dépassé... de toute façon, les violences au sein du couple sont des infractions, sont des délits. Et sont considérées comme des infractions aggravées par justement le fait de vivre en couple. Hein. Un couple, c'est sans doute pas, et c'est même tout le contraire, hein, c'est des engagements de soutien, de solidarité, de confiance, et c'est absolument pas la violence, la suspicion, la privation, etc. Donc, des infractions passibles effectivement du tribunal correctionnel et qui peuvent aller sur des peines très importantes lorsque s'en suivent des incapacités. Sans faire de trop de droits, mais il peut y avoir des préjudices, des séquelles, et ça peut aller sur des peines très importantes. Hein. Voilà, donc c'est ce qu'il faut quand même retenir. Et à tout le moins, sur des violences verbales, aujourd'hui, la tolérance est vraiment absolument nulle. Et un coup de pied dans la voiture de sa compagne ou des menaces de mort, des SMS harcelants, y compris des violences verbales, ça va conduire l'intéressé devant le tribunal, devant le procureur pour en répondre. Et puis évidemment après avec une adaptation de la réponse pénale en fonction déjà du comportement de l'auteur, de ce qu'il en dit et de comment il se positionne.
D'accord. Et pour avoir une idée à peu près de la peine qu'une personne peut avoir par rapport à ces violences. Après, je sais que c'est très différent par rapport au cas qu'il peut y avoir, mais pour avoir une idée, ça monte jusqu'à combien ?
Alors, ça va vraiment du rappel à la loi, quoique en ce moment, il est en train d'être réévalué. C'est une disposition, c'est une réponse pénale vraiment de base, hein, le rappel à la loi devant un délégué du procureur. Beaucoup de stages de responsabilisation aujourd'hui sont prononcés presque systématiquement avec une grosse surcharge. Donc, c'est des stages de 2 jours où on va parler justement du couple, de la violence pour essayer de provoquer d'autres comportements. Et ça peut aller jusqu'à 10-15 ans de prison lorsqu'il y a des incapacités permanentes, c'est-à-dire lorsqu'il y a des séquelles définitives. Il y a également des mandats de dépôt qui sont prononcés, c'est-à-dire que des comparutions immédiates. On imagine effectivement une jeune femme qui serait victime de violence, un auteur interpellé immédiatement. Il peut très bien passer en comparution immédiate et faire l'objet d'un mandat de dépôt, c'est-à-dire d'être conduit en prison, voilà, sur le champ. Et notamment, ce que les magistrats ont beaucoup en tête, et surtout en ce moment, c'est la protection de la victime. Hein. C'est notamment lorsqu'ils sont inquiets pour... la sécurité de la victime, si l'auteur a nulle part où aller, par exemple, qu'il a commis quand même des violences assez graves, à ce moment-là, il y a des fortes possibilités qu'il soit conduit et qu'il soit incarcéré.
Merci pour votre précision, pour votre réponse et les précisions que vous nous avez données, Fabrice. On va passer sur un autre thème maintenant. Donc, c'est vrai que quand on est jeune, on se construit, on découvre aussi la vie en couple, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Mais lorsqu'on subit de telles violences, on peut se demander si ça n'affecte pas notre propre personnalité, notre personnalité à nous, tout seul, individuellement, et pas la personnalité qu'on peut avoir en couple. Du coup, qu'est-ce que les violences de couple peuvent engendrer dans la construction de soi ? Est-ce que Agathe, vous voulez commencer, puisque comme vous l'avez expliqué au début, vous avez été victime de violences étant jeune. Est-ce que vous voulez commencer en expliquant ce que vous avez ressenti une fois que tout ça a été terminé? Est-ce que ça a empiété la construction de vous-même?
Oui, bah pour faire du lien avec ce dont Agnès parlait tout à l'heure, je pense que c'est ça aussi qui est important de comprendre, c'est que quand on est dans une relation de couple ordinaire, basée sur l'égalité, bien sûr qu'on peut avoir des conflits, mais il n'y a pas d'impact négatif, en tout cas sur l'un des membres du couple, alors qu'à l'inverse, quand on est victime de violences, en effet, il y a des impacts psychologiques. Dans mon cas, je me suis beaucoup effacée, j'ai des traits de personnalité qui ont énormément changé parce qu'on s'adapte continuellement à l'autre et à ses comportements pour éviter justement les crises. Donc on finit par devenir une autre personne puisque, comme l'a dit Agnès, on finit par devenir la personne que l'autre souhaite que l'on soit. Et donc une fois que la relation se termine, c'est pas toujours évident parce qu'on se retrouve un peu seul. Enfin, moi j'ai ce souvenir d'un réseau complètement appauvri parce que presque plus d'amis, puisque tout le monde m'a soit laissé tomber à force de m'aider à comprendre qu'il y avait quelque chose de pas normal et j'ai pas voulu écouter à ce moment-là, j'étais pas prête à entendre, donc c'est des personnes que j'ai perdues. De toutes ces personnes aussi que lui a enlevées dans mon entourage, donc assez seule. J'ai ce souvenir aussi du silence qui me traumatisait particulièrement, puisque du jour au lendemain, il n'y a plus d'appels, il n'y a plus de SMS. Alors bien sûr que les violences ne s'arrêtent pas au moment où on met fin à la relation, puisque les auteurs de violences peuvent aussi continuer à harceler la victime plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années après la séparation. Mais en tout cas, moi, quand il m'a laissée tranquille, j'ai vraiment ce souvenir du silence très lourd et pesant, puisque du jour au lendemain, je ne sers presque plus à rien. En tout cas, c'était le sentiment que j'avais. Je ne savais plus... voilà à quoi devait ressembler ma vie, puisque ça faisait 3 ans qu'elle était dictée par mon compagnon. Donc, difficile. Et puis après, il y a des choses qui laissent des traces. Il y a des choses qui se remettent un peu en place et on reprend goût à la vie parfois même. Et puis, on reprend du lien, on recontacte certaines personnes et on se remet à faire des activités qu'on ne faisait par exemple plus. Et puis, il y a des choses qui restent. Alors moi, je sais que j'ai été tellement harcelée par téléphone, en SMS, en appel, enfin géolocalisé, qu'aujourd'hui c'est toujours difficile, 6 ans après, de me détacher de ce téléphone. Et je suis constamment en hypervigilance sur le temps de réponse quand on m'appelle, quand on m'écrit. Donc voilà, ça c'est difficile en tout cas de s'en débarrasser, mais c'est comme si j'avais été conditionnée pendant plusieurs années à devoir être vraiment hyper réactive dans ces échanges. Donc, c'est des choses qui restent. Et puis après, ben, en fonction de ce qu'on a vécu, il y a des choses qui marquent et la mémoire traumatique fait qu'il y a certains événements qui reviennent après. Et puis, il y a des choses, des lieux, des odeurs, des personnes, des sons qui vont nous ramener à certains événements. Donc, c'est vrai que c'est un peu comme des casseroles qu'on pourrait traîner quelques années. Mais ce qui est important aussi de dire, c'est que c'est possible de s'en sortir et que même si les premiers mois, les premières années peuvent être difficiles, et peut-être que pour certaines, ce sera difficile très longtemps et pour d'autres, un peu moins. Mais je pense que ce qui est important, c'est de savoir et de dire qu'il y a un après aussi et que tout peut très bien se passer et on a le droit aussi d'être heureuse après cette relation de violence.
Oui, c'est sûr que ça semble très compliqué de quand on vit une situation aussi longue avec des habitudes, ça semble compliqué de s'en détacher après. Et puis même quand on reconstruit sa vie, de ne pas reproduire les mêmes choses alors qu'on n'est même plus contrainte à les faire. Hein, mais je pense qu'il y a cet automatisme qui fait qu'on a tellement l'habitude que on continue, quoi. Donc,
oui, puis on a tout un tas de raisons de toute façon de ne pas mettre, ou en tout cas d'avoir des difficultés à mettre fin à la relation. Et puis quand on a aussi vécu des choses aussi fortes avec l'autre, et puis c'est quelqu'un qui prend beaucoup de place aussi finalement dans sa vie, donc ça fait aussi très peur de s'imaginer du jour au lendemain sans cette personne, puisque même s'il y a des violences, ça reste presque un repère aussi dans son quotidien. Donc tout ça fait très peur et rend le départ assez difficile. Mais oui, c'est important de dire que c'est possible et que voilà, il y a aussi du soutien qu'on peut obtenir de plein de façons différentes pour retrouver une vie normale et saine après.
Merci pour votre témoignage. Est-ce que Agnès, vous voulez rebondir sur le plan un peu plus psychologique ?
Oui, bah alors il y a beaucoup de choses là du coup qui ont été dites. Après, effectivement, vous avez des réactions immédiates qui ont lieu au moment où la violence a lieu, qui sont notamment beaucoup des réactions physiques de stress, de sensations de froid, de frissons, de tremblements, de palpitations, de désorganisation, de confusion, on ne sait pas quoi penser, j'ai bien vu, j'ai bien entendu, j'ai bien... Ça peut aller jusqu'à des nausées, des vomissements, des céphalées, de la fatigue. Il y a des troubles petit à petit suite à ces réactions physiques de stress. Ça va induire la répétition de ces réactions physiques de stress, vont induire des symptômes comportementaux et qui vont conduire, eux, ensuite à une symptomatologie psychologique. Alors, les symptômes comportementaux, c'est des pleurs, des cris, des rires nerveux, le fait de beaucoup, beaucoup parler, un état d'alerte permanent, une impossibilité de se reposer, des troubles du sommeil, une préoccupation accrue pour l'hygiène, pour la propreté. Qu'est-ce que vous avez le refus de pouvoir être touché, les évitements effectivement de lieux, de personnes, pour éviter de se rappeler l'agresseur ou la personne avec laquelle on a vécu. Il y a tous les comportements de méfiance et de suspicion à l'égard d'autrui, et puis des troubles que vous pouvez retrouver qui sont très importants chez les étudiants, notamment chez les jeunes en apprentissage, qui sont les conséquences du stress physique. C'est une difficulté de concentration qui est énorme, des troubles de l'appétit et une consommation des drogues et de l'alcool, qui fait que la drogue et l'alcool, on le retrouve chez les auteurs, mais on le retrouve aussi souvent chez la victime, pour d'autres raisons, pour pouvoir un peu supporter tout ça. Et au niveau psychologique, ensuite, de façon plus durable, ça s'installe la peur. La peur de ne pas être cru, la peur de subir à nouveau, la peur des réactions de l'entourage ou des inconnus, des attaques de panique. Donc, quand on se retrouve subitement dans une grande surface, on ne sait pas pourquoi, mais ce n'est pas possible de rester là, il faut pouvoir en partir tout de suite. Un sentiment d'humiliation, de gêne, de déshonneur, la perte de l'estime de soi. Qu'est-ce que vous pouvez avoir ? Un sentiment de culpabilité. Par rapport à son propre comportement qui est énorme. Pourquoi je n'ai pas compris plus tôt? Pourquoi je ne suis pas partie plus tôt? Pourquoi j'ai supporté ça? De la colère aussi, la colère, l'agressivité dont on ne sait pas quoi faire, qui tourne un peu en boucle sur soi. Et puis ce que l'on retrouve aussi beaucoup, beaucoup chez les victimes, c'est l'absence d'émotion. Qui vont se couper de leurs émotions et qui fait qu'il va y avoir une difficulté à pouvoir dire ce qu'elles ont vécu pour tout ça. Et c'est aussi pour ça que ça prend du temps de pouvoir réussir à dire et à sortir de ce cercle vicieux-là. C'est qu'on est plus conscient, on se coupe de ses émotions, donc on est plus conscient de ce qu'on reçoit, de ce qu'on ressent, pardon, que ce soit négatif ou positif. Et qui est petit à petit, tout le travail ensuite que l'on fait de reconstruction, c'est notamment de renouer avec ses émotions et d'aider les personnes à sortir de ce repli sur soi. Et puis, vous avez aussi le déni de l'agression, de la banalisation. Non, mais c'est juste une petite claque, mais il était en colère, mais c'est voilà, tout ce déni-là qui peut aussi durer pendant très longtemps. Et puis, bien entendu, les syndromes dépressifs, qui peuvent aller jusqu'au syndrome post-traumatique d'ailleurs, qui peuvent la fatigue chronique, l'ébranlement identitaire, toutes ces choses qui peuvent demander de longs, longs mois de thérapie par la suite.
Oui, on entend souvent parler de schéma d'emprise. Je pense que ça rejoint un peu ce que vous avez dit. Mais on entend souvent parler dans le cadre des violences en général. Mais est-ce que c'est pareil chez les jeunes? Et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le schéma d'emprise en général?
Alors, le schéma d'emprise, il est compliqué à comprendre parce que c'est toujours un phénomène de double emprise. C'est-à-dire que... Alors, caricaturalement, la femme rencontre l'homme et l'homme violent, même s'il y a des hommes qui sont violentés, mais qui sont quand même une toute petite minorité. Ceci dit, ça fonctionne pareil dans l'autre sens. Va rencontrer un homme qui est quelque chose qui correspond à son imaginaire, quelqu'un de tout à fait acceptable. Puis la violence arrive petit à petit, elle n'est pas là au début. Sinon, a priori, il n'y aurait pas de relation qui pourrait se créer. Il va y avoir à un moment donné de la violence. Et puis, on va retourner vers quelque chose de l'ordre de la lune de miel, où la personne redevient gentille, etc., etc. Et où la femme, du coup, elle connaît la personne et elle sait qu'elle est autrement qu'en étant tout le temps violente. Et souvent, elles le disent, quand il n'est pas violent, il est gentil. Et que du coup, la question, c'est oui, mais quand il est violent, parce qu'on ne peut pas diviser une personne en deux. Et la personne violente qui va utiliser le « mais oui, mais je suis gentil et toi, tu me connais comme étant gentil », et qui va utiliser ça pour pouvoir se mettre en emprise sur la personne et l'amener à faire un certain nombre de choses et prendre le pouvoir sur la personne. Alors, très souvent, avec des auteurs qui ont des angoisses d'abandon, etc., etc., donc ils ne peuvent pas supporter que la personne s'éloigne d'un centimètre et soit différente dans leur idée que la personne, dans le réel, que la personne qu'ils ont dans leurs idées. Et que cette question de la double emprise, elle est essentielle pour comprendre pourquoi les femmes sont en difficulté de pouvoir partir. Parce qu'effectivement, quand la personne n'est pas violente, eh ben, elle n'est pas violente et elle la connaissent aussi autrement. Et souvent, ce sont des personnes qui n'ont pas forcément une mauvaise image à l'extérieur, les personnes violentes, qui ont une certaine façade adaptée à l'extérieur.
Oui, et du coup, par rapport à ce que vous dites, j'aurais une petite question. C'est du coup, quand on est victime, à partir de quel moment on peut se dire que ce qui est en train de se passer, ce n'est pas normal, entre guillemets, dans un couple, parce qu'après, qu'est-ce que la normalité dans le couple? Mais à partir de quel moment, comme on a parlé du violentomètre, entre la différence entre conflit et violence, là, par rapport au schéma d'emprise et aux différents mécanismes que vous venez de citer, à partir de quel moment la victime peut se dire « Ok, là, stop, c'est pas normal ce qui vient de se passer ». Et ok, il faut peut-être que je prenne du recul et peut-être qu'il faut que je décide quelque chose. Et du coup, de l'autre côté, en tant que témoin, parce que c'est vrai qu'on parle souvent du rôle témoin, hein, même dans l'approche juridique, etc. En tant que témoin, quels sont les signaux, on va dire, alarmants par rapport à cette situation-là?
Alors, la question la plus simple, c'est en tant que témoin. Donc, commencer par celle-là. En tant que témoin, en général, ce qui doit alerter, c'est un compagnon ou une compagne qui dénigre son compagnon ou sa compagne dans des soirées, notamment quand c'est fait avec beaucoup d'ironie, qui fait que ça peut être très « ah ben oui, mais toi, tu ne serais pas capable de le faire hein, » ou du coup, vous n'avez rien à dire à ça parce que c'est… et là, c'est peut-être aller voir la personne et dire « mais il est souvent comme ça et il est que comme ça, ça ne va pas plus loin quand vous êtes, dans des relations plus intimes. » Parce que le propre de la violence dans un couple, c'est que quand même, elle est peu vue à l'extérieur et que quand elle est vue, elle est déjà massive. Par contre, effectivement, par rapport au violentomètre, toutes les premières violences psychologiques, les dénigrements, c'est pas toi qui t'habillerais comme ça, ces choses-là doivent interpeller sur le fait que pourquoi il se permet de lui parler comme ça, alors que moi, mon compagnon, ne parle pas comme ça, est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière? C'est quand même déjà un signe qu'effectivement, il y a une relation qui est déséquilibrée et que du coup, c'est important de faire part de son ressenti à la personne en face et de l'alerter sur le fait que tu es la seule à qui on parle comme ça, regarde les autres hommes, ils ne parlent pas comme ça à leur compagne. Et de les alerter sur le fait qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. D'accord. Ensuite, la question de qu'est-ce qui doit nous alerter, le simple fait de se poser la question, ça doit nous alerter. La difficulté, c'est la question de la confiance en soi qui se construit tout au long de sa vie et qui se construit à l'adolescence et chez les jeunes. Elle est en cours de construction et pas tout à fait construite, entre autres parce qu'elle s'alimente beaucoup. La confiance en soi, on s'appuie beaucoup pour la construire, sur la place qu'on occupe dans la société. Donc, ça passe beaucoup par le travail, la position sociale, etc., ce que les jeunes n'ont pas encore. Du coup, cette estime de soi, elle est en pleine construction. Et comment je me fais confiance pour me dire que là, ça ne me convient pas, là, ça m'alerte. Très souvent, les personnes que je reçois et qui ont été pendant des années sur des relations me disent « mais ça faisait bien longtemps que je sentais que… » Et par contre, qui n'ont pas osé s'écouter sur cette question de la confiance en soi. quand on a ces premiers signaux d'alerte, comment on ose aller poser la question à quelqu'un d'autre, de lui dire « mais c'est normal, toi, dans ton couple, ou il me dit que… que je ne sais jamais cuisiner, qu'il a jeté le plat que j'avais fait parce que ce n'était pas bon et il est parti manger tout seul au restaurant. C'est normal, il te fait subir des sortes d'humiliations de cette sorte, de ce type-là. Il faut oser pouvoir aller en parler. Et le problème, c'est que très souvent, d'emblée, dès les premières violences, les personnes n'osent pas aller en parler. N'ose pas s'ouvrir moi je vis ça, j'ai honte de ça, donc j'ai une difficulté à pouvoir en parler. D'accord. C'est pour ça que c'est important et que les pouvoirs publics s'en saisissent, parce que du coup, si les personnes sont en difficulté de pouvoir intervenir, il faut qu'elles puissent être aidées par la société.
D'accord, et du coup, je rebondis, je me tourne de manière digitale, hein, du coup, on est en digital, je me tourne vers Agathe par rapport à votre expérience, comment vous avez pu vivre tout ça, à partir de quel moment vous avez constaté que c'était pas normal, alors je mets encore entre guillemets parce que voilà, et aussi, voilà, c'est vrai qu'Agnès, vous avez parlé aussi du fait qu'il fallait en parler assez rapidement, en quelque sorte, donc du coup, Agathe, par rapport à votre expérience, qu'est-ce que vous... Pour rebondir à ce qu'a dit Agnès, est-ce que vous voulez rajouter quelques points ?
Oui, ce qui n'est pas évident, c'est qu'il y a aussi, quand on est jeune, il y a aussi une banalisation de la violence. Donc, ce n'est pas toujours évident non plus d'identifier qu'on est victime de violence et que ce qu'on subit relève bien de la violence. Et alors, dans mon cas, j'ai mis fin à la relation quand on est passé à la violence physique, où en effet, cette personne m'a étouffée. Et ça, pour moi, ce n'était pas normal, pas possible dans une relation de couple. Et je ne pouvais pas accepter ça. Et pour autant, ça faisait quand même 3 ans que j'étais quand même victime de violence, mais plutôt psychologique, plutôt verbal et plutôt sexuel, mais je ne mettais pas du tout ces mots, pas le mot violence en tout cas, sur ce que je subissais. Donc c'est là où aussi c'est très important de pouvoir accompagner les jeunes et faire de la prévention et les aider à identifier toutes ces formes de violence, parce que ce n'est pas toujours évident de les repérer. Et donc ça, pour moi, ce n'était pas normal, et c'est à ce moment-là que je décide de partir. Et pour autant, comme l'a dit Agnès, il y a plein de fois où avant je me disais, ça quand même, ça me questionne, enfin, comment ça se fait que ça puisse le mettre dans un état pareil ? Il y a quand même cette petite voix intérieure qui est présente. Et aujourd'hui, ce que je dirais à d'autres, c'est que souvent l'image que je donne et que j'ai en souvenir, c'est le sentiment de marcher sur des œufs. On ne sait pas trop si ce qu'on dit ou si ce qu'on va dire ou si ce qu'on va faire, ça va déclencher une réaction ou pas de la part de l'autre. Et ça, je trouve que voilà, c'est quelque chose de très alarmant. Et en même temps, la peur justement des comportements de l'autre et de la réaction de l'autre peut être un bon signe, un bon signal pour soi quand on pense, en tout cas quand on se questionne sur sa relation. Si on a peur déjà de l'autre et de ses comportements, c'est que potentiellement, on n'est en effet pas du tout dans une relation saine et égalitaire. Et pour l'entourage, c'est jamais simple en effet de pouvoir repérer, puisque tout se passe de manière assez privée, que rares sont les fois où c'est devant les autres, que lorsque c'est le cas, c'est vraiment parce que les violences sont importantes. Et il y a toujours cette peur en plus de ne pas être cru, puisque justement, il y a tellement de choses qui se passent dans l'intimité que c'est difficile aussi d'aller vers l'extérieur. Alors moi, après coup, certaines de mes amies m'ont dit qu'elles avaient des soupçons, mais jamais rien pour les confirmer, jamais osé non plus poser la question très clairement. Et en même temps, elles voyaient bien que je me repliais sur moi-même, que je me renfermais, que je sortais de moins en moins, que j'avais moins d'activités en dehors de celles que je pouvais avoir avec lui. Et elles n'ont jamais osé cette question. Et au final... voilà, ça ne peut être qu'aidant finalement que d'oser demander à son ami, à ses proches, enfin, peu importe le lien qu'on a avec cette personne, si tout se passe bien ou pas dans la relation, parce que quand on est dans une relation égalitaire, c'est pas une question qui nous met mal à l'aise. Et quand on est victime de violence, potentiellement, ça peut être une main tendue. Et puis, si on s'en saisit, tant mieux. Si on s'en saisit pas à ce moment-là, ça ne veut pas dire qu'on s'en saisira jamais non plus. Mais qu'en tout cas, on sait que quelqu'un soit a vu ou soit se pose des questions, et que ça peut être un bon relais, une bonne oreille pour nous. Et sur le fait d'en parler rapidement, bah oui, mais c'est tellement simple pour moi de dire maintenant qu'il faut en parler rapidement. Mais ce qui n'est pas évident, c'est que, comme l'a dit Agnès une nouvelle fois, il y a tout le discours aussi du partenaire qui est là pour essayer d'inverser la culpabilité. Donc, c'est la victime qui se questionne constamment sur ce qu'elle a fait de travers, sur ce qu'elle a dit de travers, sur voilà, qu'est-ce qu'elle a pu avoir comme comportement pour en arriver là. Et du coup, ça devient difficile aussi d'en parler puisqu'on pense qu'on est vraiment responsable de ce qu'on subit. Et donc, ça ne nous aide pas. En tout cas, ça ne facilite pas non plus la prise de conscience et la libération de la parole. Et puis, c'est un engrenage. Enfin, les violences, c'est comme un escalier. C'est une marche à la fois. C'est toujours de plus en plus violent au fil du temps. Donc, parfois, il y a aussi un sentiment un peu de fatalité. Voilà, j'en suis là et j'arriverai jamais finalement à m'en sortir. Et pour autant, oui, c'est important de pouvoir en parler assez rapidement dès qu'on soupçonne quelque chose et d'aller valider auprès des autres, auprès de ses proches, de ses amis, en tout cas de personnes en qui on a confiance, que ce qu'on vit est ordinaire, pas ordinaire, normal, pas normal, puisque comme l'a dit aussi Fabrice au début de cette table ronde, les violences sont punies par la loi, le conflit non. Donc voilà, ça c'est aussi important d'aller valider à l'extérieur si ce qu'on vit est normal ou pas, quand on se pose en tout cas la question. Pour tenter en tout cas de pouvoir voilà, mettre fin le plus rapidement possible puisque malheureusement on pense toujours qu'on arrivera à revenir au début de la relation dans cette phase de fusion et finalement non, hein, on y revient mais jamais comme on l'espère et surtout on espère pouvoir changer l'autre, c'est ça aussi ce qui est assez fou, c'est qu'on est persuadé de pouvoir changer l'autre et de retrouver la personne qu'on a connue au départ, sauf que voilà, une personne violente pour changer, il faut avoir conscience qu'il y a un problème et le problème des auteurs de violence, c'est qu'ils se déresponsabilisent constamment.
Je vais rebondir sur justement le rôle du témoin, des amis, des proches, de la famille. C'est vrai qu'en tant que témoin, on a du mal souvent à intervenir, à s'interposer, etc., entre les deux personnes. Je ne sais pas si c'est du fait justement que les violences de couple, les violences conjugales étaient... avant de l'ordre du privé, etc. Mais voilà, aujourd'hui, on voulait poser la question à Fabrice en termes d'approche juridique. Quel est le rôle exactement du témoin? Quel poids il a, en fait, dans le processus ou non juridique, hein?
Oui, complètement, il est essentiel. Et puis juste pour compléter ce que j'ai entendu qui est très juste, et c'est que ça va même effectivement des fois à des auteurs, des compagnons qui vont... casser le téléphone portable, par exemple, de leur copine, et à la fin de la scène, vous voyez la copine qui va s'excuser. Ça vous donne une idée, finalement, de cette emprise dont on parlait, et qui fait que c'est toujours la faute de la victime, parce qu'elle est moins dégourdée, moins agile, elle a moins fait ceci comme il faut, etc. Et à la fin, elle s'excuse, hein, alors que c'est elle qui a subi le préjudice. Alors, le rôle des témoins aujourd'hui, il a beaucoup évolué. Avant, ça ne nous concernait pas ce qui se passait chez les autres. C'était la sphère de l'intime, on ne se permettait pas de s'en mêler. Et aujourd'hui, on a complètement changé de paradigme. On l'a vu beaucoup pendant le confinement, on a eu beaucoup de signalements de la part de témoins, ça a très très bien marché, et heureusement, avec des gens qui ont appelé la police, avec des personnes qui ont appelé par les réseaux sociaux, leurs copines sur Snapchat ou quoi, pour leur dire qu'elles étaient mal, qu'elles étaient enfermées dans la salle de bain, qu'elles n'osaient pas sortir. Et c'est les copines qui ont appelé la gendarmerie pour qu'elle puisse intervenir. Donc, vous voyez, finalement, je pense que ça, ces témoins-là ont un rôle de plus en plus important. Et la loi va aujourd'hui aussi jusqu'à demander aux médecins généralistes, lorsqu'ils soupçonnent des violences, hein, ils connaissent bien leurs patients en général, et lorsqu'ils soupçonnent effectivement qu'une jeune femme est victime de violences, eh bien, ils sont tenus de faire un signalement, y compris si la victime ne le souhaite pas. Ils sont tenus de faire ce signalement au procureur de la République, et dans tous les tribunaux, il y a des circuits qui ont été établis pour que ces signalements soient transmis sans délai à l'autorité judiciaire.
Merci pour ces précisions, Fabrice. Quand on est victime de violences de couple et qu'on est jeune, on a souvent peur de l'après, comme l'a expliqué Agathe tout à l'heure. On sait ce qu'on a vécu, on sait ce qu'on vit aujourd'hui, mais on se dit « qu'est-ce qui va se passer demain si j'arrête tout ?» Vraiment, c'est un mystère, l'avenir, et on a peur de se lancer ou de se séparer de l'autre. Enfin, en fait, je pense que les victimes préfèrent peut-être rester dans la routine en se disant que bah, elles seront toutes seules. Ou, enfin, voilà. Et du coup, on voulait vous demander comment se séparer de l'autre quand on est victime de violence? C'est une question un peu compliquée, mais comment faire en sorte de ne plus avoir peur d'avancer, en fait?
Alors, ce n'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on doit tout supporter de lui. Moi, je donne souvent l'exemple aux personnes, ça les fait rire, mais oui, vous l'aimez, oui, il vous aime, mais quand on est diabétique et qu'on aime le chocolat, eh bien, on ne mange pas de chocolat parce qu'on tombe malade. Et bien là, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il vous aime, mais mal, avec un amour qui rend malade, et que du coup, il faut s'en protéger, tout simplement. Ce n'est pas la question d'aimer ou de ne pas aimer la personne en face, c'est la question de sa propre protection. Rien ne justifie la violence. Parce qu'effectivement, vous avez peut-être mal cuisiné ou pas fait le repas comme il fallait ou je ne sais pas trop quoi, ou regarder le voisin que vous n'auriez pas dû le regarder ou arriver en retard. Mais rien ne justifie la violence. La violence appartient toujours à la personne qui est violente. Il y a d'autres façons de résoudre ces problèmes. On en parle, on se met d'accord. Si on n'est pas d'accord, on se sépare, on va se faire aider de quelqu'un, etc. Mais aucun comportement ne justifie qu'on aille se faire taper. C'est interdit par la loi. Il ne peut pas y avoir de société s'il y a de la violence. Et que c'est aussi ça, je pense, qu'il faut pouvoir, dire aux jeunes, c'est que quoi qu'ils fassent, c'est pas supportable que ce soit traité. On supporte plus qu'un enfant puisse être maltraité alors qu'il a fait une bêtise. On va pas le supporter pour des femmes, même si elles ont pas bien cuisiné.
Et puis, alors, personnellement, pour rebondir, ça me fait penser aussi à plein de choses qui sont parfois ultra banalisées chez les jeunes, comme par exemple les technologies. Les nouvelles avancées des technologies a considérablement changé nos vies et on les utilise tous et toutes de plus en plus. Enfin, voilà, ça a tout un aspect positif. Et en même temps, ça a tout un aspect négatif et qui est démultiplié quand on est victime de violences. Et ça, parfois, moi, quand je fais des interventions auprès des jeunes, c'est difficile de leur faire comprendre qu'aujourd'hui, ils ont l'habitude d'être géolocalisés sur toutes les applications qu'ils utilisent et qu'en même temps voilà, il peut y avoir aussi des certaines limites. Alors, l'exemple que je donne souvent, c'est la map de Snapchat où on peut voilà, en temps presque réel, en tout cas la dernière fois qu'on a utilisé l'application, savoir où se trouve la personne. Moi, je trouve ça assez scandaleux et je me réjouis presque de ne pas avoir connu cette fonctionnalité quand j'étais moi-même victime de violence. Et souvent quand je leur pose la question moi, sur la raison pour laquelle ils l'utilisent, c'est toujours un peu trouble parce qu'ils ne savent pas trop, que finalement ça leur semble normal que les autres puissent voir en temps réel où ils se trouvent, d'aller regarder aussi l'autre, en tout cas leurs proches, leurs amis, leurs copains, copines, amoureux, amoureuses, tout ce qu'on veut, où est-ce qu'ils se trouvent. Et du coup, c'est difficile aussi de remettre dans la tête que quand on est en couple, on partage des choses avec l'autre, mais on a aussi une intimité, sa personnalité, qu'on peut aussi faire des choses seule et pas toujours et constamment avec l'autre. Et ça, ce n'est pas toujours simple pour certains jeunes qui pensent que quand on est en couple, on doit tout donner à l'autre et qu'on fait tout ensemble et qu'on ne fait plus qu'un et qu'on n'existe plus en tant qu'individu, qu'en tant que personne. Et voilà, et ça, les réseaux sociaux, en tout cas, ont amené aussi beaucoup de choses plus compliquées, enfin, en tout cas dans la localisation et dans vraiment le harcèlement qui est démultiplié dans ces relations. Et c'est important en tout cas de pouvoir leur montrer qu'il y a des choses qui sont acceptables ou pas et qu'il y a des choses qui ne sont pas obligatoires quand on est dans une relation de couple.
Et Agathe, vous dites que quand vous avez subi ces violences, vous étiez constamment du coup, donc, sur le téléphone ou à dire où vous étiez, ce que vous faisiez, etc. Mais j'ai une question à vous poser. Du coup, comment ne pas reproduire le même schéma après dans le futur quand on a de nouvelles relations? Parce qu'une fois qu'on s'est habitué à ça, finalement, même si c'est nous qui disons où on est et ce qu'on fait, peut-être qu'on l'impose indirectement aussi à notre compagnon qui nous fait subir ces violences parce qu'on se dit « pourquoi que moi ?» ou voilà. Comment on fait après quand on a une nouvelle relation et qu'en fait, on a envie de reproduire ces schémas alors qu'il ne faut pas forcément. Est-ce que c'est difficile? Enfin, est-ce que vous avez des conseils à donner sur ça?
Alors, en effet, moi, cette personne que j'ai nommée Léo, qui est du coup un prénom fictif, mais c'est plus simple pour moi de le raconter de cette façon-là. Donc, Léo, du coup, en effet, m'imposait de dire tous les jours où j'étais, ce que je faisais, avec qui j'étais, et parfois même ce dont je discutais avec mes amis, mes proches. Et après, comme tout à l'heure, j'utilisais le mot conditionnement, parce que c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu et que parfois je vis encore. On prend l'habitude d'en effet envoyer tous ces messages et de prévenir constamment comment l'autre. Et comme moi, c'était ma première relation, c'est vrai que ce n'était pas évident non plus de savoir quelles étaient les limites et de savoir que finalement, ce n'était pas normal. Et moi, j'ai découvert que j'avais été victime de violence et j'en ai compris vraiment tous les mécanismes et j'ai commencé à décortiquer, on va dire, ma propre histoire un an après avoir mis fin à la relation. Et donc, entre-temps, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Et quand j'ai rencontré cette nouvelle personne, alors pour le coup, ce n'était pas une crainte de ma part, parce que c'est comme si j'avais quand même assez intégré que Léo avait été violent, mais que ça ne voulait pas dire que tous les hommes étaient violents. Mais quand, sur les premiers mois voilà, de relation avec cette nouvelle personne, je reproduisais en effet ces attitudes, ces messages, pour prévenir constamment que je partais de chez moi, que j'arrivais en cours, que j'allais à l'entraînement, enfin, j'avais cet automatisme. Et en fait, jusqu'au jour où mon partenaire m'a dit « je ne comprends pas pourquoi tu fais ça ». Et ça ne me sert à rien de savoir où tu es à chaque fois que tu te déplaces. Que tu veuilles me dire que tu es bien rentrée chez toi parce que tu as fait de la route et que ça te rassure de dire que tu es rentrée, c'est une chose. Passer une soirée avec des amis, rentrer tard le soir et juste me dire que ça s'est bien passé, que tu es rentrée, très bien. Mais me dire à longueur de journée, et presque à la minute près, où tu es, que tu es dans un train, que tu sors d'un train, que tu es arrivée à l'école, enfin, là, c'est beaucoup trop et ça, j'en ai pas besoin. Et je me souviens de m'être dit, tiens, c'est différent qu'avec Léo, il n'attend pas de moi la même chose. Et du coup, petit à petit, bah, c'est cette personne qui m'a aidée à mettre le doigt finalement sur tous ces automatismes que j'avais, que je reproduisais sans vraiment m'en rendre compte puisque je les avais complètement intégrés. Et après, bah, on s'en débarrasse en effet au fur et à mesure quand on comprend en tout cas pourquoi ces automatismes sont là et qu'on comprend pourquoi aussi ils n'ont pas à être là. Donc voilà, c'est vrai qu'après, ce n'est pas toujours simple non plus de se débarrasser de tous ces petits actes qu'on avait pris l'habitude de faire et qu'on vient confronter à une autre personne qui potentiellement n'est pas violente, comme ça a été le cas pour moi, et qui permet voilà, de remettre les choses finalement dans le bon ordre et à la bonne place.
Merci Agathe. Bah, merci du coup pour l'instant à tous pour tout ce que vous nous dites. Aujourd'hui aussi, il existe du coup plusieurs services pour répondre à tout ce dont on a parlé, plusieurs services qui peuvent nous accompagner si on est victime et nous aider aussi à remonter la pente. Et est-ce que chacun d'entre vous peut nous dire quels sont les différents dispositifs qui existent aujourd'hui en France, notamment pour pouvoir accueillir et accompagner les victimes de violences? Je ne sais pas si Fabrice, vous voulez commencer peut-être.
Oui, et peut-être juste préciser en tout cas qu'en cas de séparation dangereuse, on va dire ça, c'est quand même un truc qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que le moment de la séparation, ça peut être dangereux. Et notamment, c'est ce qui a été identifié hein, lorsqu'il y a eu cette étude. On a eu une année noire, vous vous souvenez, en 2019, où il y a eu plus de 120, je crois, féminicides en France. Et là-dessus, il y a vraiment une étude, ça a montré, attention, le moment des séparations peut être dangereux. Et ça, je pense que chaque jeune femme peut s'en rendre compte, notamment parce que c'est des gens qui ne vont pas accepter la séparation, qui vont revenir, qui vont harceler, qui vont menacer de mort. Et il faut vraiment prendre ça au sérieux. Donc là, mon conseil, c'est vraiment d'aller voir soit une association d'aide aux victimes. Et donc, comme je vous l'ai dit, vous en avez, alors à Grenoble, c'est nos collègues de France Victimes 38 Grenoble, mais vous en avez dans tous les départements. Parce qu'aller déposer plainte quand on a 20 ans, 18 ans, 20 ans, aller au commissariat déposer plainte, c'est vraiment pas évident de faire cette démarche-là. En revanche, être accompagné, être soutenu et que cette démarche-là soit facilitée par les associations d'aide aux victimes, c'est tout à fait notre job, c'est normal et ça permet quand même une vraie prise en compte de ce que peut vivre la victime. Il y a aussi des dispositifs qui existent de protection, véritablement, c'est les ordonnances de protection, ça s'appelle comme ça. Et voilà, là, ça peut être mis en œuvre par la victime, elle peut être aidée par un avocat. Là aussi, les associations sont là pour faire le relais, mais ça permet de prendre des mesures de protection supplémentaires avec des bracelets anti-rapprochement, avec des téléphones grave danger, des choses comme ça. Ça peut aller malheureusement, je dirais, toutes les séparations ne sont pas faciles. Et il y a quelques cas où ça peut aller là. Et l'entourage doit aussi, les copains, les copines, tout ça, doivent être vigilants si... ils voient que la séparation de leur ami ne se passe pas très, très bien. Donc, voilà pour ça. Il y a aussi une appli qui peut être intéressante, notamment pour sauvegarder des pièces, parce que vous savez qu'en matière de justice, ensuite, il faut pouvoir apporter quand même des éléments de preuve. Et là, on a un site pour télécharger cette appli qui s'appelle Mémo de vie. Et le site, c'est www.memo-de-vie.org. Et c'est une appli assez intéressante qui vous permet d'enregistrer des documents, de prendre des photos, de prendre des notes. Et aussi de prendre conscience, hein, de ce qu'on vit et puis d'en discuter éventuellement après avec des professionnels, assistantes sociales ou associations, avocats, etc.
Merci Fabrice. Agathe.
Oui, pour compléter, donc il y a en effet tout ce réseau France Victimes très spécialisé sur l'aspect juridique. Il y a aussi le réseau Solidarité Femmes, qui est du coup un réseau d'associations spécialisées sur la question des violences. Donc, il y en a à peu près partout en France. C'est aussi l'association qui a créé et qui gère le 3919, qui est la ligne d'écoute nationale pour les femmes victimes de violences, mais pas seulement pour les victimes, aussi pour les proches. Il y a beaucoup de témoins qui appellent pour venir aussi questionner, savoir comment intervenir, et des professionnels aussi, la ligne ouverte aussi aux professionnels. Vous parlez aussi du chat de l'association En Avant Toutes, qui est du coup le seul chat qui existe en France, qui est spécialisé sur la question des violences dans les très jeunes couples, notamment les moins de 26 ans, qui est ouvert tous les jours jusqu'à 21h. Donc voilà, c'est des bonnes ressources aussi à connaître, mais c'est vrai qu'il y a plein d'initiatives locales parfois comme ça, qui sont très peu connues à l'échelle nationale, et c'est dommage, mais ça vient compléter voilà, tous les autres dispositifs et toutes les associations qui existent.
Merci Agathe. Et Agnès, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de vous en tant que psychologue et du binôme que vous formez avec votre collègue?
Avec ma collègue sophrologue.
Oui, sophrologue, oui.
Où effectivement, on reçoit les personnes d'abord en individuel qui nous sont orientées, qui sont venues à l'association parce qu'elles avaient vécu des violences conjugales. Alors, soit récemment, soit antérieurement dans leur vie, et elles ont envie de pouvoir en faire quelque chose. On les voit d'abord, alors moi je les vois d'abord en entretien individuel pour leur permettre de pouvoir exprimer ce qui est de leur vécu personnel, de ce qu'elles ont à dire, de tous les événements qu'elles ont en mémoire, des violences qu'elles ont pu vivre. Et avec ma collègue sophrologue, on propose ensuite un groupe de parole qui se déroule en 8 séances, dans lequel on va parler en commun des conséquences de la violence, en fait, de qu'est-ce qui s'est modifié en moi, de toutes ces conséquences-là. Et donc, on évolue au cours des séances, où on commence par réfléchir sur qu'est-ce que c'est qu'être une femme, et puis on évolue petit à petit sur les émotions, sur tout un travail fait avec la sophrologue pour ressentir ses émotions. Plus particulièrement, on fait 3 séances sur les émotions, et plus particulièrement, du coup, les 2 séances suivantes, c'est sur la colère et sur la tristesse. Et puis, à la fin donc, de tout ce processus-là, sur l'estime de soi, on a des jeux de type conduire sa vie, de type le langage des émotions, etc., etc. Et à la fin de ces 8 séances, on a 3 séances en partenariat avec une école d'esthétique privée à Valence, l'école Maestris, qui forme des futures coiffeuses et esthéticiennes. Et donc, on a un partenariat avec eux où on y va avec les personnes afin qu'elles puissent bénéficier de soins esthétiques et de coiffure de façon à pouvoir appréhender autrement leur corps. D'avoir, alors d'une part parce que ce sont des soins qui sont pas forcément accessibles pour les jeunes et ou pour les femmes que l'on reçoit sur une question de coût, et du coup ça peut faire très longtemps qu'elles n'ont pas eu accès à ce type de soins, et pour pouvoir avoir un accès à leur corps par la douceur, par le fait qu'on ait du temps pour elles, de cette espèce de bulle qui se crée dans un espace d'esthétique. Il n'y a pas de rapport d'argent, donc les jeunes s'expérimentent à faire un certain nombre de soins. Pour elles, c'est déstressant pour les jeunes, et pour les personnes qui sont là, il n'y a pas ce rapport d'argent-là non plus. C'est une parenthèse qui leur est proposée et qui a un effet ultra bénéfique chez toutes les personnes que l'on accompagne, parce que c'est reprendre une vie comme tout le monde. C'est se retrouver dans quelque chose, retrouver un corps social avec une unité, avec une solidarité autour d'elle et se retrouver vraiment comme tout le monde. Et ça permet de couper vraiment avec tout ce qu'on a vécu avant et tout ce qui s'est passé et de pouvoir, de comprendre qu'on peut accéder à autre chose et vivre autre chose.
D'accord. Et puis moi, du coup, je vais finir pour intervenir et vous parler du coup du dispositif de signalement qui est prévu et organisé par... par l'UGA. C'est un dispositif qui est mis en place pour les étudiants qui sont témoins ou victimes de violences, de discrimination ou même de bizutage. Et alors du coup, sur la plateforme campus.univ-grenoble-alpes.fr, vous avez l'adresse mail de la déléguée égalité qui pourra vous répondre à toute question, hein, même si vous êtes témoin et que vous n'êtes pas sûr, ou même victime et que vous n'êtes pas sûr d'avoir vu ou vécu certaines situations. C'est très important de pouvoir communiquer avec une personne tierce que vous ne connaissez pas forcément et qui est indépendante de l'UGA, qui est totalement neutre et qui peut peut-être vous orienter vers des institutions ou même elle-même répondre à vos questions en termes voilà, de violence, discrimination, bizutage, etc. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter en tant qu'étudiant ou même jeune à saisir ces services dont Agathe, Fabrice et Agnès vous a parlé, et même ce dispositif de signalement qui est vraiment fait pour ça. Voilà, à l'échelle de l'UGA, l'Université Grenoble-Alpes. Du coup, je vais donner la parole à Jérémy pour conclure cette table ronde et pour clôturer tout ça.
Oui, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Malheureusement, on arrive déjà à la fin, puisque là, ça fait une bonne heure qu'on discute toutes et tous ensemble. Mais du coup, merci beaucoup à vous toutes et tous de vous être rendus disponibles. Merci à Ilona et à Madison d'avoir organisé cette table ronde. Et puis du coup, à bientôt sur Campus Grenoble 90.8.
Au revoir.
Merci.